Chute mortelle pour une étudiante de l'USC. Le décès d'Andrea St. James, étudiante infirmière à l'USC, a été déclaré la nuit dernière peu après son admission au Mercy Hospital de Los Angeles Nord. Elle a été apparemment victime d'un accident bizarre. Miss St. James partageait un appartement sur Delorme Street avec une camarade d'études, Annie Wilkes, de Bakersfield. Peu avant 11 heures du soir, Miss Wilkes entendit un cri bref suivi de terribles bruits sourds de chute. Miss Wilkes, qui révisait ses cours, se précipita sur le palier du deuxième et aperçut son amie sur celui d'en dessous, gisant dans une position tout à fait anormale. Miss Wilkes a déclaré que dans sa précipitation pour lui venir en aide, elle faillit tomber elle-même. « Nous avions un chat du nom de Peter Gunn », a-t-elle dit. « Cela faisait plusieurs jours que nous ne l'avions pas vu, et nous pensions que la fourrière avait dû le ramasser, car nous ne lui avions toujours pas mis de collier. Il était sur la marche du haut, mort. Elle a dû trébucher sur le chat. J'ai mis mon cardigan sur Andrea et j'ai appelé l'hôpital. J'avais compris qu'elle était morte. Mais je ne savais que faire d'autre. » Miss St. James, née à Los Angeles, avait 21 ans. Seigneur Jésus. Paul se mit à répéter cette incantation à voix basse. Sa main tremblait comme une feuille lorsqu'il tourna la page. Il tomba sur un autre extrait du Los Angeles Call qui expliquait que le chat adopté par les infirmières avait été empoisonné. Peter Gunn. Non charmant pour un chat, pensa Paul. Des rats avaient envahi le sous-sol de l'immeuble. Les plaintes des locataires s'étaient traduites par un avertissement de l'inspection sanitaire l'année précédente. Le propriétaire avait fait un scandale lors du conseil municipal suivant, au point que les journaux en avaient fait état. Annie devait être au courant. Devant la menace d'une amende de la part des conseillers municipaux qui n'appréciaient pas de se faire insulter, le propriétaire avait déposé des appâts empoisonnés dans le sous-sol. Le chat en avait mangé. Il s'était traîné dans les caves pendant 2 jours. Il avait tenté de rejoindre ses maîtresses avant d'expirer et avait provoqué la mort de l'une d'elles. Une ironie digne d'un humoriste professionnel, pensa Paul Sheldon, éclatant d'un rire frénétique. Tout à fait ce qu'il faut pour un sujet d'une minute à la radio. Impeccable. Absolument impeccable. Mis à part, cela va de soi que nous n'ignorons pas que Miss Wilkes a donné elle-même un appât empoisonné au chat et que si le malheureux Peter Gunn n'en a pas voulu, elle le lui a fourré de force dans le gosier avec un bâton. Une fois mort, elle l'a déposé sur la marche en espérant que ça fonctionnerait. Peut-être avait-elle de bonnes raisons de penser que sa collègue rentrerait un peu pompette. Ça ne me surprendrait pas. Un chat mort, un tas de vêtements, même technique, comme aurait dit l'ami Tom Twyford. Mais pourquoi, Annie? Ces articles me disent tout, sauf cela. Pourquoi? Dans un effort d'autoconservation, une partie de son imagination, au cours des dernières semaines, s'était littéralement identifiée à Annie. Et cette partie-là venait de prendre la parole, parlant d'un ton sec, refusant toute contradiction. Et si ce qu'elle disait paraissait complètement délirant, ses propos n'en présentaient pas moins une logique parfaite. Je l'ai tuée parce qu'elle écoutait la radio tard le soir. Je l'ai tuée à cause du nom idiot qu'elle avait donné au chat. Je l'ai tuée parce que j'en avais assez de l'avoir embrassé son petit ami à pleine bouche sur le canapé pendant qu'une main remontait si haut sous sa jupe que l'on aurait dit qu'elle cherchait de l'or. Je l'ai tuée parce que je l'ai surprise en train de tricher un examen. Je l'ai tuée parce qu'elle m'a surprise en train de tricher un examen. La raison précise n'a pas d'importance au fond, non? Je l'ai tuée parce qu'elle était une biscornouille de morveuse, et ça me suffisait. Et peut-être aussi parce qu'elle était une mademoiselle je sais tout, murmura Paul. Il renversa la tête en arrière et partit d'un autre rire, hennissant, aigu et plein de frayeur. Voilà donc ce qu'était le chemin du souvenir. Oh, quelles étranges variétés de fleurs empoisonnées poussées dans la version wilkesienne de ce singulier vieux sentier. Personne n'a donc jamais fait le rapport entre ces deux chutes accidentelles. Tout d'abord son père, puis sa colocataire. Affirmes-tu ça sérieusement ? Oui, il se l'affirmait sérieusement. Les deux accidents s'étaient produits à 5 années d'écart dans 2 villes différentes. Ils avaient été rapportés par des journaux différents dans un état très peuplé, où, c'était évident, les gens n'arrêtaient pas de tomber dans les escaliers et de se rompre le cou. Et elle était très, très maligne. Aussi maligne que le malin lui-même, semblait-il. Sauf qu'elle commençait à perdre un peu les pédales, fallait-il ajouter. Maigre consolation pour lui, néanmoins, de se dire que cette femme serait mise finalement hors d'état de nuire pour le meurtre de Paul Sheldon. Il tourna la page et découvrit encore un article découpé dans le Bakersfield Journal. Le dernier, s'avéra-t-il. Miss Wilkes, diplômée de l'école d'infirmière, lisait-on en titre. Une enfant de la ville qui réussissait. Le 17 mai 1966. Sur la photo souriait une Annie Wilkes, plus jeune, et étonnamment jolie, en tenue d'infirmière. Cliché pris, bien entendu, le jour de la remise des diplômes. Elle avait été reçue avec mention. Le meurtre de sa compagne de chambre a suffi, songea Paul, pris d'un nouvel accès de rire hennissant et terrorisé. Une rafale de vent secoua la maison comme pour lui répondre. Le portrait de maman vibra un bref instant contre le mur. La coupure de presse suivante venait du Union Leader de Manchester, New Hampshire, et datée du 2 mars 1969. Il s'agissait d'une simple nécrologie qui semblait sans aucun rapport avec Annie Wilkes. Ernest Gognard était mort au Saint-Joseph Hospital à l'âge de 79 ans. La cause précise n'était pas mentionnée. Après une longue maladie, indiquait-on simplement. Pleuré par sa femme, ses 12 enfants et quelque chose comme 400 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Rien ne valait la méthode du docteur Augino pour se donner une belle descendance, pensa Paul avec un nouvel hennissement. Elle l'a tué. C'est ce qui est arrivé à ce bon vieil Ernie. Sinon, que ferait sa nécrologie ici ? C'est bien le livre des morts d'Annie, non ? Mais pour l'amour du ciel, pourquoi ? Pourquoi ? Avec Annie, c'est une question à laquelle n'existe pas de réponse normale, comme tu le sais bien. Autre page. Autre nécrologie tirée de l'Union Leader, 19 mars 1969. Il s'agissait d'une dame, Esther Queenie Boliphant, 84 ans. D'après la photo, elle avait l'air plutôt d'une momie égyptienne mal conservée. Victime, semblait-il, du même syndrome que le pauvre Ernie. La longue maladie, aurait-on dit, frappait fort dans les parages. Comme le patriarche, elle avait expiré à Saint-Joseph, dépouille mortelle visible de 14h à 18h, le 20 mars à la maison funéraire Foster. Enterrement au cimetière Marie-Cyr, le 21 à 16h. Aurait dû donner une version spéciale de Annie, Won't You Come By Here, chantée par le Mormon Tabernacle Choir, pensa Paul. Nouveau rire chevalin. Trois autres nécrologies du même journal figuraient sur les pages suivantes. Deux vieillards étaient morts de cette affection favorite de toujours, longue maladie. La troisième concernait une femme de 46 ans du nom de Paulette Simot. Paulette était morte en revanche d'une autre affection fort courante, courte maladie. La photo qui accompagnait l'article avait beau être plus floue et avoir plus de grain que de coutume, Paul dut reconnaître qu'à côté de Paulette Simot, Queenie Boliphant avait l'air de Sumbelina. Il se dit que sa maladie avait fort bien pu être courte. Une coronaire qui explose, disons, puis un petit voyage au bon vieux Saint-Joseph suivi de... Suivi de quoi, au fait ? Mais de quoi exactement ? Il préférait ne pas trop s'attarder sur les détails. Mais dans les trois nécrologies, le décès avait eu lieu à Saint-Joseph. Et si l'on regardait dans les registres du personnel de l'hôpital, ne trouverait-on pas le nom de Annie Wilkes en mars 1969 ? Dites les copains, est-ce que les renards vont dans les poulaillers pour couver les œufs ? Cet album, grand Dieu, cet album était tellement énorme. N'en jetez plus, s'il vous plaît. Je ne veux pas s'en apprendre davantage. J'ai compris le principe. Je vais le reposer à l'endroit exact où je l'ai trouvé. Puis, je vais retourner dans ma chambre. Quelque chose me dit qu'en fin de compte, je n'ai pas trop envie d'écrire. Je crois que je vais tout simplement prendre une gélule de plus et me mettre au lit. Disons comme assurance anti-cauchemar. Mais pour le chemin du souvenir d'Annie Wilkes, bonsoir. Non, je t'ai plus, je vous en prie, je vous en prie. Mais ses mains paraissaient fonctionner indépendamment de son esprit et ne cessaient de tourner les pages de plus en plus vite. Deux autres courtes nécrologies dans l'Union Leader. L'une de fin septembre 1969, l'autre de début d'octobre de la même année. 19 mars 1970, un journal de Harrisburg en Pennsylvanie, le Herald. En dernière page, renouvellement dans le personnel de l'hôpital. On voyait sur la photo un homme gagné par la calvitie à lunettes, le genre d'individu qui donnait à Paul l'impression d'être capable de manger des poux en secret. L'article précisait qu'outre le nouveau directeur des relations publiques, le Riverview Hospital avait recruté 20 autres personnes, 2 médecins, 8 infirmières diplômées, plus du personnel non médical, y compris un concierge. Annie était l'une des infirmières. Sur la page suivante, songea Paul, doit se trouver une brève notice nécrologique sur une personne âgée morte dans cet hôpital de Harrisburg, Pennsylvanie. Tout juste. Un vieux schnock, mort de la grande classique, longue maladie. Suivi d'un autre pauvre vieux, mort de cette autre éternelle grande classique, courte maladie. Suivi d'un garçonnet de 3 ans tombé dans un puits, gravement blessé à la tête et que l'on avait amené dans le coma au Riverview Hospital. Dans un état proche de l'engourdissement, Paul continua de tourner les pages tandis que le vent et la pluie s'attaquaient avec hargne à la maison. La procédure était inaltérable. Elle prenait un nouveau travail, supprimait quelques personnes et s'en allait recommencer un peu plus loin. Soudain, une image lui revint à l'esprit, l'image d'un rêve que son moi conscient avait déjà oublié, mais qui acquérait, du coup, cet éclat prémonitoire du déjà-vu. L'image d'Annie Wilkes, dans une longue robe avec tablier, les cheveux pris dans une coiffe, une Annie Wilkes qui avait tout à fait l'air d'une infirmière de l'hôpital Bedlam de Londres. Elle tenait un panier à un bras. De sa main libre, elle plongeait dedans. En ramenait du sable qu'elle jetait en passant sur des visages tournés vers elle. Ce n'était pas le sable apaisant du sommeil, mais un sable empoisonné. Un sable qui tuait. Les visages touchés devenaient tout blancs, et les tuyaux des appareils d'assistance qui maintenaient leur vie précaire s'affaissaient les uns après les autres. Elle a peut-être tué les enfants Krennmitz parce qu'ils étaient de sales morveux. Et sa copine de chambre, peut-être même son propre père. Mais les autres. Mais il savait. L'Annie qui était en lui savait. Vieux et malades. Tous avaient été vieux et malades, sauf Paulette Simo, qui devait être en fait un légume au moment de son admission. Comme le gosse, tombé dans le puits. Annie les a tués parce que... parce qu'ils étaient comme des rats, pris au piège, murmura-t-il. Pauvre bête. Pauvre petite bête. Bien sûr, c'était ça. Dans la vision du monde d'Annie, les gens se répartissaient en trois catégories. Les sales morveux, les pauvres petites bêtes et Annie. Elle avait régulièrement progressé vers l'ouest. Après Harrisburg, ce fut Pittsburgh, puis Duluth, puis Fargo. En 1978, elle s'était retrouvée à Denver, Colorado. À chaque fois, le scénario était le même. Un article de « Bienvenue à bord », dans lequel on retrouvait le nom d'Annie parmi d'autres, elle avait sans doute raté celui de Manchester, se dit Paul, parce qu'elle ignorait encore que les feuilles de chou locales publiaient ce genre de papier, puis deux ou trois morts sans rien de remarquable. Et le cycle reprenait. Du moins avait-il repris jusqu'à Denver. Là, le début avait été le même, avec un article « Nouveaux arrivants » tiré du journal de l'hôpital lui-même, dans lequel le nom d'Annie était mentionné. Toujours en lettres bâton, Annie avait écrit le nom du journal interne, The Gurney, la civière. Superbe nom pour un journal d'hosto, fit Paul à l'intention de la piézuine. Étrange que personne n'ait songé à l'appeler le petit mouchard illustré. Il poussa un nouvel hennissement terrifié, sans même s'en rendre compte. Il tourna la page et tomba sur la première nécrologie tirée du Rocky Mountains News. Laura D. Rotsberg, longue maladie, 21 septembre 1978, Receiving Hospital de Denver. Puis le scénario s'interrompait brusquement. La page suivante était consacrée à l'annonce d'un mariage et non pas d'un enterrement. La photo montrait Annie, non pas dans son uniforme, mais dans une robe blanche moussante en dentelle. À côté d'elle, lui tenant la main, se trouvait un homme du nom de Ralph Duggan. Duggan était physiothérapeute. « Mariage sous le signe de la santé », disait le titre de l'article, avec une ironie involontaire. Rocky Mountains News, 2 janvier 1979. Duggan n'avait strictement rien de remarquable, en dehors d'un petit détail. Il ressemblait au père d'Annie. Paul songea qu'il aurait suffi de lui couper sa moustache, ce qu'elle l'avait probablement obligé à faire dès la fin de leur lune de miel, et cette ressemblance aurait été frappante. Paul considéra l'épaisseur des pages restantes de l'album d'Annie et songea que Ralph Duggan aurait été bien inspiré de vérifier son horoscope. Mettons plutôt son horreurscope, avant de faire sa demande en mariage à Annie. Quelque chose me dit que j'ai pas mal de chances de trouver un peu plus loin un bref article où il sera question de vous. Certains ont des rendez-vous à Samara. J'ai l'impression que vous aviez plutôt rancard avec une pile de linge sale ou un chat crevé en haut d'une volée de marches. Un chat crevé avec un nom marrant. Mais il se trompait. La coupure suivante concernait les nouveaux arrivants dans le journal de Nederland. Nederland était une petite ville, juste à l'ouest de Boulder. Pas tellement loin d'ici, estima Paul. Pendant quelques instants, il n'arriva pas à trouver le nom d'Annie dans la liste pourtant courte de l'entrefilé, puis il comprit qu'il ne cherchait pas le bon patronyme. Elle était bien là, mais sous la bannière de cette vaste corporation, Monsieur et Madame Untel. Paul redressa brusquement la tête. N'était-ce pas un bruit de voiture ? Non. Rien que le vent. Certainement le vent. Il revint à l'album d'Annie. Ralph Duggan avait repris sa tâche, aidé l'infirme, le boiteux, l'aveugle, à l'hôpital du comté d'Arapahoe, et Annie la tâche non moins honorable de porter secours à ceux qui souffraient dans leur chair. Et maintenant, les assassinats vont recommencer. La seule question intéressante concerne Ralph. Sera-t-il au début, au milieu ou à la fin ? Mais il se trompait une fois de plus. Au lieu d'une nécrologie, la page suivante s'ornait de la photocopie d'un document immobilier, avec dans le coin en haut à gauche la photo d'une maison. Paul ne l'a reconnue que grâce à la grange. Après tout, il n'avait jamais vu le bâtiment de l'extérieur. En dessous, en lettres bien dessinées, Annie avait écrit « Payé en bon argent le 3 mars 1979. Papier signé le 18 mars 1979. » Maison en vue de la retraite ? Paul restait dubitatif. Pour passer les vacances ? Il n'aurait pas pu se payer un tel luxe. Alors ? Eh bien, il s'était peut-être passé une fantaisie, mais essayons autre chose. Qui sait si elle n'aimait pas Ralph Duggan ? Si une année n'était pas passée sans qu'elle sentît l'odeur du biscornouille sur lui ? Quelque chose avait forcément changé. Il n'y avait pas eu d'article nécrologique depuis... Il revint en arrière pour voir. Depuis Laura Rothberg, en septembre 1978. Elle s'était arrêtée de tuer à peu près à l'époque où elle avait rencontré Ralph. Mais c'était en 1979, et plusieurs mois s'étaient écoulés depuis. La pression commence de nouveau à monter. Les épisodes dépressifs reviennent. Elle voit tous ces vieux, tous ceux dont la maladie est terminale. Elle pense, pauvre petite bête, qu'ils sont bien malheureux. Elle se dit peut-être, c'est l'environnement qui me déprime. Tous ces kilomètres de couloirs carrelés avec ses odeurs, ses couinements de semelles de crêpes et les gémissements de ceux qui souffrent. Si je pouvais quitter cet endroit, ça irait mieux. C'est probablement ainsi que Ralph et Annie avaient effectué leur retour à la Terre. Il tourna la page et scia. Griffonné au bas de la page, on lisait « 43 août 1880, va te faire enculer ». En dépit de l'épaisseur du Bristol, la fureur avec laquelle elle avait tracé cette date incompréhensible avait déchiré le papier. Au-dessus se trouvait la colonne « Divorce prononcé » du journal de Nederland, mais il dut retourner l'album pour trouver le nom des Duggan. Elle l'avait collé à l'envers. Oui, ils étaient bien là. Ralph Duggan et Annie Wilkes. Motif, cruauté mentale. Divorcé après une courte maladie, grommela Paul, levant de nouveau la tête. Il avait cru entendre une voiture approcher. Le vent. Seulement le vent. Il valait cependant mieux retrouver la sécurité de sa chambre, pas seulement à cause de la douleur dans ses jambes. Il commençait à se sentir sur le point de disjoncter complètement. Il se pencha néanmoins une fois de plus sur l'album. À sa manière aberrante, il était en quelque sorte trop passionnant pour que l'on pût l'abandonner sans plus de façon, comme un roman tellement immonde qu'il faut aller jusqu'au bout. Le mariage d'Annie s'était dissous de manière beaucoup plus légale que ce que Paul avait redouté. Il semblait juste de dire que le divorce avait été prononcé après une courte maladie. Un an et demi de béatitude matrimoniale, ce n'était pas très long. Ils avaient acheté la maison en mars. Ce n'est pas le genre d'acquisition que l'on fait au moment où une union est sur le point de se rompre. Que s'était-il passé ? Paul n'avait aucun moyen de le savoir. Il pouvait bien inventer une histoire, mais elle ne serait que cela, une histoire. Puis, revenant sur l'article, il releva un détail intéressant. Angela Ford de John Ford. Kirsten Frawley de Stanley Frawley. Dana McLaren de Lee McLaren. Et Ralph Duggan de Annie Duggan. C'est bien la coutume américaine, non? On n'en parle pas beaucoup, mais elle existe bel et bien. Les hommes se déclarent au clair de lune, les femmes les assignent devant les tribunaux. Quelle histoire cachait donc cette structure grammaticale? Angela disant à John « Lâche-moi les baskets, John Eck ». Kirsten balançant à Stan « Change de plan, Stan ». Dana jetant à Lee « Rends-moi mes clés, Lee ». Et qu'est-ce qui avait pu envoyer Ralph, le seul homme à avoir l'honneur de la première place dans cette liste? Je crois qu'il a dû dire un truc du genre « Laisse-moi foutre le camp d'ici, Annie ». Peut-être avait-il eu le temps d'apercevoir le chat crevé sur la marche, ricana Paul.